Bonjour et bienvenue dans le premier podcast francophone entièrement consacré à Kimagure Orange Road. Je suis Julien, heureux de vous accueillir à l'Abacabou pour démarrer cette série d'analyses intitulée Madoka et compagnie. Dans ce premier épisode, je vous présenterai cette approche originale de l'œuvre et pourquoi j'ai choisi de l'appeler ainsi. Ce podcast s'inspire d'ailleurs beaucoup des analyses très riches que vous pouvez retrouver sur le forum francophone de Core. N'hésitez pas à vous y rendre pour poursuivre un peu plus loin votre réflexion. Commençons. Madoka et compagnie, introduction. Un des charmes de Core, c'est la narration à la première personne que nous offre Kyosuke. Que ce soit par l'approche de l'histoire, ou par ses prises à partie du spectateur, on se sent tout de suite impliqué. Nous aussi, nous débarquons dans cette nouvelle ville, on va se faire de nouveaux amis, vivre de nouvelles expériences. En ce sens, le choix du nom français de Core était plutôt bien adapté. Max et compagnie nous présentaient l'adolescence dans les yeux de ce jeune garçon. Cette vision de l'histoire donne sa saveur au récit, car, comme Kyosuke, on n'a pas de vision d'ensemble. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête des protagonistes, ce qui leur arrive hors champ, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Pas étonnant que, comme lui, on envie Kazuya, capable de lire dans les pensées. Ceci dit, au fil des épisodes, se dévoile la psychologie des personnages. On comprend petit à petit ce qu'ils ressentent et expriment. Et bien sûr, c'est particulièrement le cas de celle qui est au cœur de cette histoire, Madoka. Voilà pourquoi, une fois étanché notre soif de connaître le dénouement de cette histoire, le réflexe qui identifie le vrai fan de Core, c'est de retourner presque immanquablement au début pour analyser le récit, fort de sa nouvelle compréhension des personnages auxquels on est maintenant irrémédiablement attaché. Alors si on changeait un peu de point de vue, si on tentait d'exprimer ce que ressent Madoka tout au long du récit, quels en sont les points d'inflexion majeurs? À quel moment ses sentiments envers Kyosuke, mais aussi Hikaru, changent? Est-il possible de discerner les instants clés qui aboutiront au final que nous connaissons? J'ai trouvé cet exercice vraiment très intéressant et je vous propose de livrer mon analyse personnelle, mais je suis persuadé que les connaissances et les expériences de chacun pourront enrichir cette analyse. Pourrions-nous analyser de manière détaillée le comportement et les pensées de ce personnage si riche et énigmatique qu'est Madoka? Je m'appelle Ayukawa Madoka. J'ai 15 ans et je viens d'entrer en classe de 3e. Les cours? Ça ne me passionne pas, mais c'est important alors. Mais je m'intéresse davantage à la musique. La famille? C'est important aussi. D'ailleurs, ce goût pour la musique me vient sûrement de mes parents, qui sont des artistes reconnus. J'aime ma famille, mais j'en suis pas très proche. Mes parents vivent à l'étranger et ma sœur est souvent absente. En fait, celle qui compte vraiment pour moi, c'est Hikaru. Le reste, ça ne vous regarde pas. Eh oui, ça aurait été trop facile comme ça. Mais malgré le caractère secret de Madoka, dans Core, on découvre beaucoup de choses sur elle, qui sont antérieures à sa rencontre avec Kyosuke. Son enfance a été plutôt difficile lorsque ses parents se sont éloignés à cause du travail, la laissant souvent pendant de longues périodes. Même si sa sœur était là, il semble qu'elle n'ait pas créé de lien très fort avec elle. C'était une solitaire, s'endurcissant petit à petit, devenant même garçon manqué. Toutefois, elle finit par prendre sous son aile Hikaru, une petite fille de 2 ans sa cadette. Une amitié très forte s'est construite au fil du temps. Hikaru a une confiance aveugle envers sa grande sœur, qui est dès le début très protectrice avec elle. Et le bien-être de son amie va devenir quelque chose de central dans sa vie. Yusaku? Ses relations avec Madoka sont floues. On pourrait s'attendre à ce qu'ils soient proches, car les trois sont effectivement amis d'enfance. Mais il semble que Yusaku, même si elle l'apprécie, est surtout l'ami de Hikaru. Par exemple, Madoka n'est pas suffisamment proche pour avoir discerné les sentiments qu'il a envers Hikaru. Tout semble indiquer que, dans les 5 ans, entre la Madoka de 1982 et celle du début de l'anime, sa situation familiale va l'amener à se marginaliser. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans cette période qui sera pourtant fondamentale pour définir qui elle est. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle a eu affaire à des bandes de délinquants, sans pour autant en faire partie. Mais elle a appris à se défendre. Et comme elle excelle dans tout ce qu'elle entreprend, elle est devenue redoutable. Crainte au point d'être appelée Piku no Madoka, mais aussi respectée, car ses écarts de conduite ne lui ont pas fait perdre son sens des valeurs. Elle s'éloigne malgré tout du conformisme et de ce qu'on attendrait d'une fille de bonne famille. Elle fume, boit et traîne en boîte de nuit. Et elle entraîne malgré elle Hikaru sur ce chemin. Elle aussi fume et s'attire des ennuis avec des délinquants dans le premier épisode. Mais Madoka veille et la tirera de ce mauvais pas. Elle s'est donc forgée une image de fille distante et solitaire, qui n'a que faire de ce que les autres pensent d'elle. Elle ne montre jamais qui elle est ou ce qu'elle pense. Et même Hikaru ne verra chez son amie que ce que cette dernière voudra bien lui montrer. Le reste, elle le garde pour elle. Pourtant, cette image est finalement très loin de la véritable personnalité qu'on va petit à petit découvrir au fil des épisodes. Elle joue un rôle, tout le monde s'en accommode. Elle la première. C'est cette contradiction qui va dérouter Kyosuke, tout comme le spectateur qui ne comprenne pas plus l'un que l'autre ce comportement versatile. Mais les choses vont commencer à changer à partir du premier épisode de cette histoire. L'amour et les garçons ne semblaient jusque-là pas avoir leur place pour la Madoka au Mediator. La délinquante ne montrerait pas une telle faiblesse. Mais qu'en est-il de la vraie Madoka? Que sait-on a posteriori? Le décor étant planté, je vous propose de commencer avec le premier chapitre de cette histoire. Madoka et compagnie, épisode 1. Juste avant sa rencontre avec Kyosuke, Madoka se promène en haut du grand escalier. Elle porte son chapeau de paille rouge, qui n'est autre que le cadeau de son premier amour. Et elle se trouve à quelques pas de l'endroit où elle l'a embrassé il y a quelques années. Ça ne peut être anodin, car il faut se rappeler que ce jour de 1982 a été un point de rupture chez elle. Elle a changé de comportement, de vêtements, elle a commencé à être plus féminine et à se laisser pousser les cheveux. On peut même facilement supposer que elle vient ici pour l'anniversaire des 5 ans, puisque c'était à cette période de l'année. Cet événement a changé sa vie. Alors pourrait-on croire que ce soit par hasard qu'elle se trouve ici, avec son chapeau en plus? Certes, l'amour n'a pas sa place pour la Madoka publique, telle qu'elle se présente aux autres. Mais au fond d'elle, il y a une profonde sensibilité. Elle est attachée à ce sentiment d'amour qu'elle a ressenti pour la première, et peut-être unique fois, envers ce jeune garçon mystérieux il y a quelques années. Et c'est précisément à ce moment-là elle rencontre Kyosuke, qui n'est autre que, on le saura plus tard, ce mystérieux garçon. Même si elle ne reconnaît pas son visage, le rencontrer à ce moment précis ne peut que lui rappeler celui qu'il avait sauvé et promis de revenir, surtout en le voyant saisir le fameux chapeau. Certains diront même que Madoka sait. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que ce garçon a quelque chose de différent, qui instantanément l'intrigue. Il retient toute son attention. Quelqu'un d'autre que moi dans cette ville a pris la peine de compter les marches de cet escalier. Et il ne cherche même pas à avoir raison sur le nombre de marches. Il est bien singulier celui-là. Elle aussi est bien singulière. Cette rencontre anodine entre deux adolescents qui flirtent sans même s'en rendre compte est une scène tellement étrangère au quotidien de Madoka. Hors de l'école, hors de sa vie nocturne, de sa famille, en dehors même de sa complicité avec Hikaru, hors du temps. Un instant où Madoka a l'opportunité d'être elle-même. En ne donnant pas son nom, elle se donne le droit de ne pas jouer son rôle habituel et d'éprouver des sentiments qu'elle ne se permettrait pas d'éprouver en temps normal. Un début de sentiment amoureux que dans ce contexte très particulier, elle ne réprime pas, ce qu'elle aurait fait dans toute autre circonstance. Certains objecteront que ce sera plus tard. Nous n'avons pas d'éléments pour trancher définitivement, mais mon avis, c'est que dès le premier instant, Madoka tombe vraiment amoureuse de Kyosuke. Bien sûr, c'est le début, elle n'en a pas encore conscience, mais ce sentiment est là, dès le départ, et ne fera que grandir par la suite. Comment pourrait-il en être autrement? Dans ce contexte qu'on a rappelé, comment aurait-elle pu laisser son précieux chapeau sans ressentir quelque chose de suffisamment fort pour la pousser à agir ainsi? Mais cet instant est trop parfait pour risquer de le compromettre. Alors, elle ferme pour l'instant le livre. Elle continuera l'histoire une autre fois. C'était le premier contact de Kyosuke avec Madoka. La fin de l'épisode lui réserve un autre premier contact, avec cette fois l'autre visage de Madoka, celle qui le déconcerte, le trouble et le fait douter. Entre ces deux événements, il y a aussi un presque contact. Elle n'est pas en classe, ça semble être régulier, personne n'est surpris. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de si courant. On ne le verra que quelques fois dans toute la série, et souvent pour des raisons précises. En réalité, Madoka se montre assez sérieuse pour les études. Son absence est donc peut-être liée à sa rencontre. Est-elle troublée? Repense-t-elle à ce garçon? D'ailleurs, elle ne joue pas un air mélancolique comme ce sera majoritairement le cas. Mais un air inhabituel, le thème de Madoka en version In Blue. On le retrouvera très peu dans la série. Il est un peu plus enjoué, il relève plus de l'expectative, dans l'attente de ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, les ennuis que rencontre sa protégée vont la faire passer à autre chose. Place à Pikuno Madoka, celle qu'on redoute et qu'on respecte. Qui viendrait d'ailleurs la remettre en cause après la raclée qu'elle vient de mettre à ses brutes. Contre toute attente, c'est le garçon de la veille. Sa surprise est totale, et pendant une seconde, son étonnement trahit un sentiment bien différent de ce qu'elle va montrer dès l'instant d'après. Est-elle un peu déçue que ce garçon l'ait vue dans ce tout autre contexte? Ou elle se doit de renvoyer l'image qu'on attend d'elle? Elle ne peut pas être elle-même à ce moment-là. Alors consciemment ou non, elle va jouer un rôle, et tout ce qu'elle va dire va s'avérer être l'inverse de ce qu'elle pense. Je ne connais pas ce type. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il soit dans sa classe? Tu te crois spécial, hein? En réalité, elle l'a reconnu. Elle le trouve justement différent des autres, un peu spécial, et elle est certainement contente qu'il soit dans la même classe. Es-tu assez fort pour donner la leçon aux autres? Pourtant, elle suivra finalement son conseil en arrêtant de fumer. De ce comportement en contre-pied, on peut facilement déduire qu'en réalité, la gifle qu'elle assène à Kyosuke est paradoxalement une marque d'intérêt envers lui. Quoi qu'il en soit, cette scène est certes moins mémorable que leur première rencontre, mais elle n'en demeure pas moins un moment clé qui pose les bases de l'attitude déroutante de Madoka. Elle brouille les pistes, car elle se sent en position de faiblesse quand elle dévoile ses sentiments réels. Cet état d'esprit torturé de Madoka au début de la série est alors parfaitement illustré par sa prestation au saxophone. Une première pour le classique thème de Madoka, qu'on retrouvera à de nombreuses reprises dans la série. Pour l'heure, Kyosuke ne sait pas interpréter ce comportement et l'analyse logiquement comme du rejet. Il va devoir s'employer pour comprendre qui est réellement celle dont il est tombé instantanément amoureux. Poursuivons avec l'épisode 2. L'épisode s'ouvre sur l'incontournable rêverie d'adolescent qui imagine cette jolie fille qui vient de rencontrer lui dire qu'elle l'aime. Rêverie ou premier rêve prémonitoire de Kyosuke? Lui qui sera prompt à interpréter ses rêves tout au long de la série n'imagine pas à cet instant que ce rêve pourrait bien, d'une certaine manière, s'être réalisé avant la fin de la journée. Cet épisode apporte sans doute beaucoup de satisfaction à Madoka. Elle commence sa journée en croisant Kyosuke qui arrive en retard. Elle voit bien qu'il est encore déconcerté par la gifle dont elle l'a gratifié. Mais c'est justement l'occasion de montrer qu'elle est toute disposée à être douce et gentille avec lui lorsqu'ils sont seuls. Mais il va falloir qu'il apprenne à la comprendre et à suivre ses règles. Elle va subtilement l'aider à comprendre comment il doit s'y prendre pour la séduire. Et ce ne sera pas en public, ni en montrant ses talents sportifs, non, mais en montrant qu'il est différent des autres. Même s'il a été déconcerté par l'attitude de Madoka, il va persévérer. Il va se tromper en attirant son attention en classe alors que ce n'est pas le moment, ou par des applaudissements spontanés pour de gym, mais là aussi dans le mauvais timing. Certes, elle s'en détournera froidement, sans pour autant que cela signifie qu'elle y soit insensible. Elle, qui est surtout crainte, stigmatisée, ne doit pas avoir souvent l'occasion d'être l'objet d'une attention sincère comme celle-ci. Je pense que ça lui fait plaisir, mais encore une fois, elle ne peut pas le montrer. Il va devoir apprendre. Mais ce qui va être le coup gagnant de la part de Kyosuke, il va le faire sans même s'en rendre compte. C'est lorsqu'il va défendre Hikaru, et indirectement Madoka, devant ses professeurs. Ce n'est pas un rôle qu'il joue, il est lui-même. Et sincère. On nous a présenté Hikaru et moi comme délinquantes, mais lui, il nous défend courageusement. Il est vraiment différent des autres garçons. Il ne juge pas à l'apparence. L'intervention de Madoka à ce moment-là n'était pas indispensable, mais d'une certaine manière, elle lui montre qu'elle approuve cette attitude. Kyosuke s'en trouvera d'ailleurs regonflé et très audacieux face à son professeur. Alors bien sûr, ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'incident à l'origine de cette remontrance va s'avérer être le principal frein à son amour envers Kyosuke, le baiser accidentel avec Hikaru. Mais pour l'heure, Madoka ne le sait pas, et elle est confortée dans ses sentiments apparus la veille. Aurait-elle fait le bon choix en lui offrant son chapeau? Voilà pourquoi la scène finale dans laquelle peu de choses sont vraiment dites est capitale. Madoka l'attend, lui a apporté son cartable, et lui dit clairement qu'elle est fière de son comportement. Sans autre mot ou presque, ils contemplent ensemble un coucher de soleil, côte à côte. Elle a pris soin de dire à Hikaru de rentrer seule. Elle veut que ce moment puisse durer. On entend alors ce que pense Kyosuke, les pensées d'un amoureux transi. Peut-on imaginer que Madoka, qui a mis en scène sciemment ce moment, ait à cet instant des pensées si différentes? Pour elle qui est si peu encline à verbaliser ses sentiments, cet instant partagé, c'est sa manière à elle de lui dire ce qu'il avait entendu dans son rêve. Elle est belle et bien tombée amoureuse sur cette marche. Cette scène est belle et émouvante. Madoka montre ici ouvertement son intérêt à Kyosuke. Ses paroles et son rire timide sont particulièrement touchants. Ce qui est remarquable dans cette presque déclaration, c'est qu'à cet instant, et pour la seule et unique fois, dans l'esprit de Madoka, la voie est libre. Hikaru n'est pas encore dans l'équation. Elle a enfin rencontré le garçon qui lui plaît. Et la suite semble prometteuse. Se pourrait-il finalement qu'une délinquante comme moi puisse trouver l'amour? Après seulement deux épisodes, on pourrait se dire que, sans ses quiproquos propres à Cor, cette histoire d'amour aurait pu se résumer en quelques épisodes seulement. Pour autant, si le lien qui unit Madoka et Kyosuke devient si fort au fil des épisodes, c'est parce qu'il se renforcera petit à petit grâce aux embûches qu'ils devront affronter. D'ailleurs, le manque d'expérience de Kyosuke aurait certainement pu compromettre rapidement cette histoire si les choses étaient allées plus vite. C'est sa persévérance, sa manière de gagner petit à petit en maturité qui permettra qu'il soit prêt, le moment venu, à gagner le cœur de Madoka. C'est également leur résilience commune face aux difficultés qui va sublimer cet amour sincère et profond qui va se construire au fil des 48 épisodes. 48 occasions pour nous d'en apprendre plus sur cette fille mystérieuse qui se révélera profondément sensible et attachante. Cet épisode est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ce regard original sur Cor qui offre une relecture intéressante de cette histoire que nous connaissons bien. Bien sûr, cette analyse manquera fatalement d'objectivité. On ne sera peut-être pas toujours d'accord. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le forum pour nous donner votre avis et pour enrichir le débat. Pour finir, comme première clôture musicale, je vous propose logiquement de terminer avec le premier opening de Cor, Night of the Sunnyside, chanté par Masanori Ikeda. Le choix de cette chanson comme premier opening n'est pas du tout un hasard, car tout est toujours parfaitement calculé dans Cor. Donc bien sûr, c'est un morceau dynamique, entraînant, qui marque les esprits. En s'attardant sur les paroles, il illustre surtout à merveille les sentiments de Kyosuke dans le premier tiers de la série. Lui qui voit arriver cette fille dont il ne sait rien et qui va chambouler son existence. On l'imagine très bien se demander, comme le fait l'interprète, jusqu'où cette fille mystérieuse va l'emmener et ce qu'il va découvrir lorsque viendra l'été. Bonne écoute, merci à tous et à bientôt.
と気づいた Good.